Nous suivons le plan, si vous voulez bien. Je ne voudrais pas trop m'étendre, mais enfin quand même, je ne voudrais pas que vous ayez une vision tronquée du message de Jean de la Croix. Et qu'en voyant la vie flamme, vous dites, vous disiez, ouais, l'Esprit Saint, alors d'où il sort, et tout ça. Vous comprenez ? Donc, j'ai essayé de me faire comprendre. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le savoir de Jean de la Croix, ce qui nous communique. Hein. Saint Paul dit, je n'ai voulu savoir rien d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié. C'est ce savoir qui nous intéresse. Quel savoir nous communique Jean de la Croix ? Que sait Jean et que dit-il de Dieu et de l'homme dans le Christ ? Quelle théologie nous a-t-il laissé ? Je vais vous donner une toute petite synthèse à ce sujet. Voilà, les choses se sont un petit peu décantées dans mon esprit ces dernières semaines. Par un regard d'ensemble sur les commentaires des chants qu'il a rédigés à la demande ou des carmélites, Anne de Jésus pour le cantique spirituel, ou des frères Cam pour la montée et la nuit obscure, ou bien une laïque, nous le verrons, pour la vie flamme. Hein, laïque engagée dans la vie spirituelle. Alors je crois, il ne faut pas demander à Jean de la Croix de nous dire tout de la théologie et de la vie spirituelle. Hein. Jean-Paul II l'a bien défini dans la lettre du centenaire en 1990-91. Chez Jean de la Croix, les trois vertus théologales composent toujours l'axe de la communication de Dieu avec l'homme, communication de Dieu avec l'homme, et de la réponse de l'homme à Dieu. Communication de Dieu à l'homme et réponse de l'homme à Dieu. C'est ça qui intéresse Jean de la Croix, c'est son lieu, il ne faut pas chercher autre chose, quoi. Ne lui demandez pas, hein, de... Voilà. Il n'y a pas... Il y a un peu de théologie de l'Eucharistie, ne lui demandez pas de théologie de la pénitence, hein, ouais. Voilà. Ne lui demandez pas la doctrine sociale de l'Église, enfin, ainsi de suite, quoi. D'accord, hein? Voilà, bon... Il est sur cet axe de communication de Dieu à l'homme et de réponse de l'homme à Dieu et qui est constitué par les trois vertus théologales. C'est ça. Il ne faut pas lui demander autre chose. C'est un maître en la vie théologale. Bien. Alors, un premier point voilà, que je vais vous inviter à lire. Je ne veux pas trop quand même insister. Mais comme on va faire plutôt la pneumatologie de Jean de la Croix, je voudrais que vous ayez conscience qu'elle n'est pas détachée de la christologie. Ça me paraît excessivement important pour une vision de synthèse. Donc, et la première théologie de Jean de la Croix, c'est de la christologie. Vous trouvez ça dans ce que j'avais appelé les paroles de lumière et d'amour. Vous avez un très beau texte hein, que vous pourrez lire, qui s'appelle « La prière de l'âme qui aime ». On dit en français pompeux et solennel, « De l'âme embrasée d'amour hein, »,« L'âme alma enamorada bon. ». Donc vous pourrez le lire, c'est ce très beau texte, qui met en œuvre justement les trois vertus théologales, mais qui nous montre que le Christ est tout entier pour moi, à moi et pour moi. Hein. C'est l'affirmation centrale de cette prière. Donc c'est une affirmation christologique sur la récapitulation de toute chose dans le Christ. Jean de la Croix nous fait comprendre que l'homme qui reçoit du Père le don du Fils unique trouve en lui absolument tout. Tout le mystère de Dieu, tout le mystère de la création visible et invisible, toute l'humanité composée des justes et des pécheurs, et spécialement la Vierge Marie. Il dit « La Mère de Dieu est à moi, car le Christ est à moi et tout entier pour moi. » Donc vous pourrez lire ce texte-là. On a un premier manifeste christologique, si vous voulez. C'est un des premiers textes de Jean de la Croix, ces paroles de lumière et d'amour, à sa sortie de prison. Donc voilà. Ces textes donc qu'on a en autographe, celui-ci on l'a en autographe, hein. C'est pas rien. Hein. Et vous voyez tout de suite que la mariologie de Jean de la Croix elle est dans la christologie. Donc c'est voilà. Bon, Marie dans le mystère du Christ. Bon, dans ses paroles de lumière et d'amour, je le dis aussi parce que je veux pas qu'on perde ça de vue parce que dans la vie flamme il en parle pas du tout. Qui dit vertu théologale dit charité et qui dit charité dit dans un même mouvement, l'amour de Dieu et du prochain. Le prochain à cause de Dieu et pour Dieu, en vue de Dieu. Alors, on a un peu l'impression, quand on lit les textes de Jean de la Croix, qu'il n'en parle pas. Hein. Alors, vous trouverez dans les paroles de lumière et d'amour que Jean, justement, en s'adressant aux carmes et carmélites, à qui sont adressés ces petits billets, ces petites sentences, hein, eh bien, il est en train d'éduquer, de former ce qu'un un père carme espagnol, Maximiliano Herreis, a appelé un moi relationnel. Jean de la Croix forme un moi relationnel en communion avec le tu de Dieu, hein, avec une majuscule, et puis le vous des frères. Alors vous avez quelques expressions, je vous les cite pour que vous ayez ça en tête quand même quand on va travailler la question de l'Esprit Saint, hein, parce qu'on participe à la... notre volonté est inspirée par... dans la procession de l'Esprit Saint, donc ça veut dire qu'on participe à l'amour de Dieu, et on a l'impression que ça ne débouche pas dans l'amour du prochain dans la vie familiale, on en parle très peu. Hein. Alors, au soir, on t'examinera sur l'amour, apprends à aimer comme Dieu veut être aimé, laisse là ce que tu es, numéro 64. L'amour ne consiste pas à éprouver de grands sentiments, mais un grand dénuement, et à souffrir pour l'aimer, dans la croix, 119. Si tu veux être parfait, vends ta volonté, donne-la aux pauvres en esprit, au pluriel, et va au Christ par la douceur et l'humilité, suis-le jusqu'au calvaire et au sépulcre. Qui n'aime pas son prochain est Dieu, 183. J'ai pris quelques extraits. Donc là, vous avez un petit peu un mini traité de la charité, hein, dans ces paroles de lumière et d'amour. Ce qu'il cultive, ce sont ses valeurs, qu'il a vécu, qu'il inculque, le respect, le pardon, le service, l'estime, la confiance dans les personnes, ça c'est flagrant chez lui. La disponibilité, le don de soi au prochain. Tout ce qu'il a vécu, cultivé, inculqué dans ce réseau de grâce, hein, du Carmel réformé, où s'est déroulée principalement son existence. Mais je voudrais souligner, hein, parce que après on peut avoir un peu une impression, bah ouais, c'est Dieu et moi et Dieu, Dieu et moi et Dieu. Voilà. D'accord ? Ça me paraît excessivement important. Bien, deuxième point, exercice d'amour entre l'âme et le Christ époux. Vous avez reconnu le titre exact et initial de cette explication des 39, qui vont devenir 40 strophes, que le premier éditeur des œuvres de Jean de la Croix appellera le Cantique spirituel. Le titre n'est pas de lui. C'est le texte cher entre tous à Jean, puisqu'il va compléter les strophes composées dans le cachot de Tolède, 31, pour en faire un premier commentaire à la demande d'Anne de Jésus, c'est le cantique spirituel A, première lettre de l'alphabet. Hein. Et puis il va réordonner les strophes, en ajouter une, 40e, restructurer, étoffer le commentaire, c'est le cantique spirituel B. A, B. Ça va ? Bon, c'est clair. Bien. Alors, un point aussi qui est assez important, me semble-t-il, l'exercice d'amour entre l'âme et le Christ époux. Donc il y a l'âme épouse. Qu'est-ce que c'est que cette âme épouse ? Eh bien, il faut la situer d'abord dans l'Église épouse du Verbe, le Fils de Dieu. Cette Église épouse du Verbe, que ce fameux roman, c'est pour ça que je vous l'ai fait dire, sur la Trinité et l'Incarnation, ces 9 romances, dans le cachot de Tolède. Vous savez, quand on lit les romances, on voit que le Père, dialoguant avec le Fils, contemple l'épouse du Verbe, une épouse qui t'aime, ou mon Fils, etc., à qui je donnerai, avant même la création. Avant la création, il y a dans le projet de Dieu de donner au Verbe, au Fils, une épouse, l'humanité, hein, l'Église. L'Église est envisagée avant même la création. Donc, l'épouse, c'est d'abord l'Église, l'humanité, Église, rassemblée, hein, comme épouse du Verbe Fils de Dieu. Je crois que c'est un premier point à souligner. Hein. Il ne faut pas détacher cette âme épouse du cantique spirituel, puis on va la retrouver dans la vie flamme, toute seule, là, comme ça, solitaire. Hein. C'est nous, c'est chaque personne humaine, pour autant qu'elle est membre de l'Église. Ça me paraît excessivement important. Donc il y a une ecclésiologie chez Jean de la Croix. Hein. Bon. Mais c'est vrai, le cantique spirituel se concentre, comme ce sera la vie flamme aussi, sur la personne humaine qui, par l'amour, devient épouse du Christ, c'est-à-dire Église. Chacun de nous a à devenir Église. Et d'ailleurs, Jean de la Croix dit dans le cantique, ces strophes cantique B, CSB, je l'écris comme ça, cantique B, 37, ça me paraît très important. Ce qui est dit de l'âme s'entend très justement de l'Église. Ce qui est dit de l'âme s'entend très justement de l'Église. Cantique spirituel B, 37. Strophe 30, paragraphe 7, c'est ça que ça veut dire. Mais évidemment, les femmes mystiques comme Catherine de Sienne, Thérèse Avila, Thérèse de Lisieux s'adressent au Christ directement comme à l'époux Jean de la Croix, qui est un homme, il a besoin d'une médiation, et c'est la médiation de l'âme. Père Lethel, vous avez fait comprendre ça, c'est assez intéressant. Bien. Donc l'âme, c'est la personne humaine dans son intériorité, là où elle est le plus image de Dieu et orientée vers, vers celui qui se révèle à elle en l'appelant. C'est ça l'âme. Et Jean de la Croix dit, l'âme n'est jamais malade sinon d'amour, dans le cantique spirituel. Voilà. Alors, le cantique spirituel nous montre que l'homme, en effet, est fait par amour et pour l'amour. L'amour, ce n'est pas une simple vertu parmi d'autres. C'est un programme de vie. Et je crois, je vais être un petit peu plus rapide, sans donner tout le détail du cantique, ce n'est pas l'objet de notre étude cette année. Mais à travers le cantique, je crois que nous découvrons de strophe en strophe, et en voyant aussi combien le cantique recueille les images, le bestiaire, des scènes du cantique des cantiques, tout en dynamisant le cantique des cantiques, parce que le cantique des cantiques, c'est quand même assez statique, c'est des tableaux qui se succèdent. Là, le cantique spirituel est très dynamique. Je crois que le cantique nous donne à connaître qui est Dieu dans le Christ époux. C'est l'amour en personne, la gratuité sans mesure, la générosité absolue, la beauté suprême. L'aimer, c'est l'aimer, el amado. Dans le cantique, c'est vraiment ça. Et qui est au coude à coude avec l'homme dans l'incarnation, dans la rédemption. Il y a au cœur du cantique spirituel le mystère de l'incarnation et de la rédemption, avec le pommier, l'arbre de la croix. Il est l'époux, voilà, c'est l'époux de l'âme. Et aussi, le cantique nous fait comprendre, connaître ce que l'homme est pour Dieu, à quelle dignité, à quelle participation de vie il est venu appeler l'âme épouse, dont il fait sa sœur. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de montrer, de bien voir que, parce qu'on dit Jean de la Croix est le docteur des nuits, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'il est le docteur de l'amour par excellence. Eh bien, le message premier de Jean de la Croix, c'est sur l'amour. La prière de l'âme qui aime, le cantique. Alors, évidemment, et c'est un amour christocentré jusqu'à la fin. Je crois que ça, c'est assez important. Alors, c'est le troisième point, se disposer pour parvenir sans retard à l'union divine. Je vais aussi un petit peu rapidement, mais pour vous donner un petit peu des pôles, des blocs de ce message de Jean de la Croix, de sa théologie. Se disposer pour parvenir sans retard à l'union divine, c'est le projet de la montée du Carmel qui trouve son achèvement dans la nuit obscure. Ces deux livres, c'est un diptyque qui commente le poème « La noche oscura ». Voilà. En fait, il commente 2 strophes sur 8. Et il commente la plupart du temps le premier vers dans une nuit obscure. Ça dure. C'est un peu casse-pied, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, bon, c'est le symbole qui lui parle, le reste. Oh, sur l'union de l'aimé, de l'aimant, il en parle dans le cantique. Donc, ce n'est pas la peine de chercher dans la nuit obscure ce qu'il dit dans le cantique. Puis voilà, il faut savoir ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision d'ensemble sur l'œuvre. Bien. Alors, quelle est cette disposition? Le mot disposition est un terme rigoureusement théologique. De la théologie de la grâce et de la liberté définie au Concile de Trente. Dieu vient au-devant de nous par sa grâce est toujours première, il a toujours cette initiative, il nous enveloppe de son initiative gracieuse, mais il ne nous sauve pas sans nous, c'est ce que disaient saint Augustin et les Pères, et donc il attend de nous une disposition, que nous nous disposions à l'union. Et c'est tout le travail de la montée et de la nuit. Cette disposition, pour Jean de la Croix, elle est envisagée sous l'angle d'un dépouillement, dar lugar, faire place. Il s'agit de faire place à l'amour divin, de l'accueillir dans sa vérité et dans sa transcendance, de renoncer par un effort lucide à tout ce qui lui fait obstacle. C'est la nuit active. Donc, il va concerner toute la personne, sens, esprit, etc. J'insiste pas. par les vertus théologales, c'est assez intéressant de voir comment il aborde les vertus théologales. Les vertus théologales, quand vous lisez chez saint Thomas hein, ou d'autres docteurs, ce sont des vertus qui unissent à Dieu. La foi qui élève, surélève l'intelligence hein, et qui nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu ou de le recevoir, Dieu comme lumière. Et la charité qui surélève notre volonté et qui lui permet de participer à l'amour même de Dieu hein, au sein de la Trinité. Hein. Donc il y a une surélévation, il y a une dignité par les vertus théologales. Hein. Alors saint Jean Lacroix, il ne refuse pas ça, mais lui, il voit ce que ça produit en nous. Hein. Et donc, il voit que ces vertus théologales, elles sont des vertus, donc ça veut dire que on est des gens bien parce qu'on a de la vertu. Hein. La vertu, c'est ça. La vertu, c'est ce qui nous fait poser des actes bons et ce qui nous rend bons en même temps, qui nous bonifie. C'est ça la vertu, hein, dans la ligne d'Aristote et de saint Thomas. Donc la vertu nous fait poser des actes bons et nous rend bons, donc on est bien. Ça va ? Et pour saint Jean Lacroix, le plus important, c'est l'adjectif théologal. Et oui, c'est ça qui est le plus important pour lui. Et c'est là-dessus qu'il insiste. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre que ben, la foi, oui, c'est une lumière, mais c'est une descente de Dieu, et donc c'est une lumière excessive. Et donc on est dans l'obscurité. La charité, oui, c'est l'amour de Dieu qui descend en nous. Il descend. Eh bien, il faut faire place. Et il faut subordonner toutes les autres amours à cet amour de Dieu. C'est un amour exigeant. Et l'espérance, un traitement spécial pour la mémoire chez saint Jean de la Croix. D'accord ? Voilà. Donc, il a une vision des vertus théologales sous le angle théologal. Et c'est vrai que dans la montée et dans la nuit, le Dieu, le visage de Dieu qui nous est révélé, il est tout à fait complémentaire de celui du cantique. On le voit surtout dans la nuit passive, c'est-à-dire que là où Dieu agit, où l'homme doit s'ajuster hein, et accepter hein, quelque chose d'assez douloureux. Hein, eh bien, c'est un Dieu tout aussi réel que celui du cantique, qui était l'aimé, hein, et qui est toujours l'aimé, mais là, dans cette nuit passive du sens, bon, c'est un petit peu tout ce qui nous tourne vers l'extérieur, ce qui est en nous imagination, sensibilité, etc., mais surtout de l'esprit, et saint Jean Lacroix dit, là j'ai une parole grave et urgente à dire, c'est rare qu'il dise ça, donc c'est ça qui l'intéresse, c'est la nuit de l'esprit, alors on est là, donc les images bibliques, c'est... Bon, les personnages, c'est Job, c'est Jérémie, donc c'est, tout ça, ça se lamente pas mal. Hein. Et puis, c'est aussi Jonas qui était dans la baleine, donc on pense à l'expérience du cachot de Tolède. Donc c'est quand même dramatique hein, comme situation, hein, cette nuit passive de l'esprit. Eh bien, qu'est-ce qui est intéressant pour saint Jean de la Croix dans cette nuit épouvantable, c'est que Dieu se fait sentir, il se fait souffrir, il se fait comprendre et accepter par l'homme comme... transcendant, absolu, infini, inaccessible. Le tout face au rien. L'amour qui doit être accueilli dans la crainte et la vénération. Mais c'est aussi Dieu, c'est également Dieu que le bien-aimé du cantique qui est au coude à coude avec nous dans l'incarnation et la rédemption et le mariage spirituel. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un Dieu tout aussi réel que celui qui s'est donné dans le Christ époux du cantique spirituel, mais là, Dieu fait comprendre que il n'est pas la propriété de l'homme, il n'est pas à son service, il n'est pas à sa portée, à la portée de sa raison, de sa volonté, de son ascèse même. Donc, familiarité, c'est terminé. Il faut le connaître et l'aimer, non pas d'un amour facile, mais sérieusement et divinement. C'est ça la montée et la nuit. Mais c'est tout autant Dieu. Et c'est vrai, Job a été prophète, il le dit, de cette nuit obscure, passive, où Dieu... par l'aridité contemplative, les événements, les contradictions, les persécutions, toutes les situations négatives de l'existence où il se cache, Dieu force l'estime de l'homme, lui inspire la crainte. Il le brûle de son amour qui purifie des scories, il fait céder les étroitesses de son intelligence, de son cœur, il déverse en lui sa sagesse secrète, sollicite sa foi, son espérance, son amour. C'est les trois vêtements, le triple vêtement de l'âme à la fin de la nuit. Et il n'y a que ce triple vêtement des vertus théologales qui convient à cette traversée nocturne et qui offre une sécurité. Et c'est Dieu qui touche l'homme. Mais c'est Dieu qui touche l'homme comme au Sinaï. Donc ça... Voilà. C'est violent. Voilà. Alors, la nuit, pour Saint Jean de la Croix, elle est une mère, il dit. Une mère très aimante. La mère très aimante de la grâce, dit-il. Sa maman, quand elle est... Pour gagner de l'argent, dans son enfance, elle était nourrice d'enfants. Elle recevait des enfants qu'elle devait allaiter. Et Jean de la Croix a très bien vu, et il le décrit très bien dans la nuit obscure, au début de la nuit obscure, que la maman allaite l'enfant à son sein, hein, puis au bout d'un certain temps, après, elle le sèvre. Hein, on sèvre comme on sèvre des petits animaux aussi, c'est pareil. Et pour le sevrer, il avait remarqué qu'elle mettait un liquide amer sur le sein, pour que l'enfant trouve que ce soit un repoussoir. Alors, il dit, ben, voilà ce que fait la grâce de Dieu pour nous. Début, consolation, tout va bien, voilà, on est mu, tout ça. Et puis après, voilà. Bon, alors, voilà, Saint Jean de la Croix, Dieu nous touche et il s'unit à nous en se cachant. Son action est immédiate, mais évidemment, c'est sûr que ça fait mal, c'est clair. Et ça, il le souligne. Il y a un aspect intéressant, c'est dans ces touches d'union, et il y a juste cet élément-là, il dit qu'il y a un incendie d'amour qui se développe dans le cœur humain et qui permet de répondre vraiment, de remplir le premier, d'accomplir le premier commandement, mais aussi le second. Et il dit que l'âme, qui avant aimait les vanités, méprisait un peu les pauvres, manquait de charité pour le prochain, dans cette nuit, elle devient enfin plus humble avec son prochain et son semblable. Je trouve ça très intéressant. Nuit obscure, 1, 2. Je prends plaisir à souligner cet aspect hein, pour que vous voyez qu'il ne l'a pas négligé. Nuit obscure, 1, 2, 2. Ensuite, 12, 8. Vous verrez ça. C'est à propos des vices des commençants. Commençant, qui juge de tout, qui se croit meilleur que les autres, etc. Hein? Bon, voilà. Donc, c'est très bien vu, là. Hein? Donc, dans et par la nuit passive, l'homme devient plus humble et plus aimant. Voilà. Alors, la nuit, c'est toujours des ruptures pour Saint Jean de la Croix. Ruptures. Des ruptures libératrices pour éduquer la communion avec Dieu et avec autrui. La rupture est pour l'union, mais il y a la rupture. Et ça, il ne se gêne pas pour le dire et pour le développer. Oui, c'est ça la nuit. Hein? La foi se fait lumière obscure, la charité amour sacrifié, l'espérance possession dans le vide. La rupture ne porte pas sur les biens eux-mêmes, ça répond Marc, j'espère, hein? Pas sur les biens eux-mêmes, qu'ils soient matériels, affectifs, intellectuels, moraux, spirituels, mais sur la relation d'appropriation et d'égoïsme que nous entretenons avec eux. Et Dieu veut en finir. C'est ça que Saint Jean de la Croix nous fait comprendre. Il ne s'agit pas seulement de changer les objets, il faut changer le sujet. Voilà, c'est ça le problème. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire, ce n'est pas nous qui pouvons nous changer. C'est ça que Saint Jean de la Croix nous fait comprendre dans les nuits, et surtout les nuits passives. Ce n'est pas nous, même avec notre bonne volonté, notre ascèse, notre détermination, notre fidélité, c'est pas nous qui allons nous changer. Nous pouvons provoquer quelques changements. Mais nous changer, non. Il n'y a que Dieu qui le peut. Et d'ailleurs, il dit, c'est pas nous qui entrons dans la nuit. Il dit, il y a une expression très curieuse en espagnol, c'est Dieu qui nous y entre. C'est très, assez étonnant, c'est à peine correct en espagnol. Pourquoi cette rupture est-elle nécessaire? Alors, Saint Jean de la Croix voit, en particulier dans la montée du Carmel, à propos du dépouillement de la mémoire par l'espérance, il voit bien qu'il y a des objections. Alors on sent qu'il prend ça, il argumente, il prend ça pied à pied, parce que la grâce ne détruit pas la nature en soi. Un bon dominicain vous dira ça. Un bon dominicain vous dira, c'est forcément un bon jésuite, c'est pour ça que je corrige un peu, je complète. Un bon dominicain vous dira, la grâce ne détruit pas la nature. Alors que vient faire Saint Jean de la Croix avec ses ruptures? On peut s'élever jusqu'à Dieu par les perfections des créatures, l'analogie de l'être. Hein, et donc par la beauté des créatures, etc., monter vers Dieu. Hein. Alors Saint Jean de la Croix dit oui, mais oui, peut-être, oui, mais peut-être. Bon, hein, ça ne suffit pas. La rupture est nécessaire et bénéfique en raison de notre condition humaine blessée par le péché des origines. Nous sommes blessés, notre condition est blessée aussi bien dans notre personne, dans notre dimension personnelle, que sociale, dans nos relations. Nous sommes blessés. Voilà, la nuit bienheureuse, plus aimable que l'aurore. C'est donc la nuit de Pâques pour Saint Jean de la Croix. C'est toujours l'Exode et la Pâque d'Israël qui est la typologie fondamentale. Dieu conduit l'homme divinement et l'homme va atteindre son centre. On va retrouver cette image du centre dans la vie flamme. Qu'est-ce que c'est que le centre? Et oui, nous sommes très déséquilibrés en fait. Et ça se voit bien dans nos sociétés, elles sont très déséquilibrées. Je ne vais pas faire de commentaires, mais regardez tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. On voit bien que ce n'est pas d'aplomb tout ça. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc on a besoin d'un centre. Eh bien, l'homme va recevoir son centre de Dieu. Il va recevoir sa place devant Dieu et devant ses frères. Sa dignité, sa maturité filiale et fraternelle. C'est ça le fruit de la nuit. Voilà. Aux nuits plus aimables que l'aurore. D'accord? Bien. Alors, nous arrivons maintenant à notre session. Ô vive flamme. Donc vous avez le Dieu époux tout proche qui ne fait qu'un avec l'homme dans le Christ. Mariage spirituel, le cantique spirituel. Et puis vous avez Dieu transcendant, absolu, Seigneur de la nuit, de l'histoire, de l'existence humaine, qu'il faut estimer et craindre. Alors est-ce que Jean de la Croix va résoudre un petit peu cette antinomie, hein? Pascal dirait la contrariété entre une théologie de la condescendance de Dieu et de l'élévation de l'homme, et puis une théologie négative, des ruptures indispensables à l'accueil de la grâce. La théologie de Jean de la Croix dans la nuit et la montée, c'est une théologie négative, apophatique. Il dit d'ailleurs, Dieu est un mystère incompréhensible, on va vers lui et on le comprend plus parce qu'on ne comprend pas que parce qu'on comprend. Théologie négative et apophatique. Alors, je crois que notre poème, La vie flamme, en quatre strophes, de six vers, adressé à une laïque, impressionnant, une veuve déprimée, franchement déprimée, par son veuvage, qui était en quête de perfection et de consolation, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, qui avait accueilli les carmélites d'Anne de Jésus à Grenade en janvier 1582, dans sa maison parce que l'archevêque repoussait la fondation et qu'elles avaient été un peu imprudentes, donc elles ont logé chez cette dame. Donc Jean de la Croix, qui accompagne les carmélites, va connaître cette dame, il va rendre visite aux carmélites, les aider, les accompagner. Ils vont faire connaissance et elle va se confier à lui et elle va lui demander de l'accompagner, d'être son guide spirituel. Anne de Jésus avait eu le cantique spirituel, 40 strophes, son commentaire. Anna de Peñalosa demande son poème et son commentaire. Son poème, La vive flamme, 4 strophes de 6 vers et le commentaire. Voilà. Elle pouvait pas faire moins. C'est clair. Mais c'est fort parce que c'est quand même, c'est une laïque, pas une religieuse. Hein. C'est pas une carmélite, c'est pas un carme, hein. C'est une laïque. Donc ça veut dire que Saint Jean de la Croix, il écrit pour une personne, mais ça veut dire que ça s'adresse à tout le monde, quoi. Bon. Eh bien, je crois que nous allons trouver dans la vie flamme, et ça va être notre hypothèse, eh bien, quelque chose qui réunit ces deux grands axes de la théologie de Jean de la Croix, dans le cantique, prière de l'âme, les paroles de lumière et d'amour, le cantique, puis de l'autre côté, l'autre pôle, la montée et la nuit. Ce poème de la vie flamme, donc de 1584, le commentaire, vraisemblablement, d'après les témoignages, là c'est très bien attesté aussi dans les procès de canonisation, ce serait l'hiver 1585-1586. Et les témoins disent qu'il l'a écrit en 15 jours, le commentaire. Donc c'est sorti comme ça. Inspiration abondante, très rapidement. Alors qu'il était vicaire provincial d'Andalousie, donc il avait autre chose à faire. Il est à une période de grande charge, hein. Il a construit un couvent, le couvent des martyrs à Grenade. Il a même construit un aqueduc qu'on conserve. C'est la seule chose qu'on conserve de lui, hein, à Grenade, dans les jardins du couvent des martyrs, pour faire venir l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui gouverne, qui a parcouru des milliers de kilomètres en Andalousie pour visiter les couvents, hein, qui s'occupe des malades, qui fait venir des musiciens pour aider les malades. Il est capable de ce genre de délicatesse. Enfin, oui, bon. Et puis il écrit La vie flamme en 15 jours, le poème un peu avant et le commentaire, parce que l'autre a dû lui demander et insister, puisque Anne de Jésus avait son commentaire. Donc il fait le commentaire en 15 jours pendant cet hiver 1585-86. Pourquoi ? Au point de vue historique, les recoupements sont assez intéressants. Dans la première strophe, vous verrez de La vie flamme, il fait mention du livre de la nuit. Donc c'est fait, la nuit est faite. Voilà. Et puis on voit que ça s'articule aussi avec la version définitive du cantique, le cantique B, qu'il rédige en 1586, qu'il termine en 1586. Donc ça coïncide, point de vue thématique, point de vue articulation, le verbe époux qui spire l'amour, et puis la pneumatologie de la vie flamme. Donc on a tous ces éléments-là, hein, pour situer le texte. Bien. Il va le reprendre, alors c'est pas du tout du même ordre que le cantique spirituel. Ce commentaire et ce poème de la vie flamme, il va les reprendre, les retoucher très légèrement à la fin de sa vie en 1591, en redescendant en Andalousie. Mais c'est des retouches minimes, hein, quelques petits ajouts. C'est pas du tout le même bouleversement que le cantique A et le cantique B. Voilà. Hein, donc nous, pour nous, si vous prenez vie flamme A ou vie flamme B, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Bien, je crois que vous avez un certain nombre d'éléments maintenant. Oui, vous les avez là. Oui, noble et dévote dame, c'est comme ça qu'il s'adresse à elle. Parce que Doña Ana de Mercado y Peñalosa, hein, ce n'était pas n'importe qui. Hein, donc, elle avait cette maison à Grenade, puis elle en avait une autre à Ségovie. Et il va y avoir une grande amitié spirituelle, hein, avec Saint Jean de la Croix. Et un petit peu plus tard, à peu près dans cette période-là quand même, oui. Donc elle avait de l'argent en réserve de son veuvage, elle ne savait pas quoi faire de cet argent, et donc elle va proposer cet héritage, cet argent au Carme, et ils vont construire le couvent de Ségovie. Saint Jean de la Croix lui-même va conseiller qu'on construise ce couvent de Ségovie que nous avons visité. Donc c'est elle, et elle est enterrée à Ségovie. Et c'est elle qui, après la mort du saint, a fait des pieds et des mains pour ramener le corps de Ubeda à Ségovie. Hein, la ville d'Ubeda étant furieuse, a gardé une jambe. Voilà. Ça. Ah oui, c'est clair. Donc on en a... voilà. Et donc le corps Saint-Jean d'Empereur est là-bas. Et elle est enterrée dans l'église du couvent avec son frère, Don Louis et ceci. Voilà, noble et dévote d'âme. Voilà. Hein. Mais la pauvre, une veuve, est pleurée, hein, quand même. Il faut bien reconnaître. Bien. Alors, je crois que nous savons que la flamme s'était allumée dans la nuit, si vous relisez la nuit passive. La flamme s'était allumée. Et puis dans le cantique spirituel, à la fin, nous recueillions en finale le souffle de l'esprit. Inspiration commune du Père et du Fils. Donc au plan symbolique, la vie flamme marque un achèvement. Ça c'est clair. Nuit, cantique, au niveau du symbole, hein, du souffle et du feu et de la flamme, hein, eh bien on a un achèvement. Hein. Parce que le Christ époux donne l'esprit sans mesure à l'homme, et qu'il confie l'homme à son esprit. Et l'esprit, c'est le Père Létec qui nous a toujours dit ça, est en communion, et est en personne, l'esprit est en personne, la communion avec le Christ dans l'Église. C'est notre trait d'union avec Jésus, l'esprit. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus pour que vous ne détachiez pas la vie flamme du reste de la théologie et du message de Jean de la Croix. On n'a pas une pneumatologie isolée. Ça va ? Elle s'articule avec la christologie. Bien. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus en détail maintenant. La personne et la mission divine de l'Esprit-Saint dans l'œuvre écrite de Jean de la Croix. Ça va ? Vous y êtes ? Bon, on a déjà un tout petit peu évoqué les choses, mais quand même... vous avez trois textes qui me paraissent intéressants. Si vous avez envie de faire une petite lecture, ou théologique ou spirituelle, je trouve que ça vaut la peine. de voir que la vie flamme n'arrive pas tout d'un coup. Hein. Donc la première chose, une première expression du mystère de l'esprit, c'est dans le roman sur la Trinité et l'incarnation, In principio erat verbo, hein, rapporté de la prison. Vous pourrez regarder les romances 1 et 2. Romances 1 et 2. Vous pourrez regarder les vers 20 à 25 et 40 à 50. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un les aurait, voudrait les lire ? Ouais, vas-y.
En espagnol.
Ah, en français. Ah, ah, personne n'est en français. Bon, écoutez, vous les lirez. Enfin, et dans cet amour qui les unit, dans un nœud ineffable. Cet amour qui les unit, c'est l'Esprit Saint qui unit le Père et le Fils dans un nœud ineffable. Il y a l'expression nœud qui vient de Saint Augustin. Dans la théologie de Saint Augustin, dans la théologie trinitaire d'Augustin, l'Esprit Saint est le nœud, le lien du Père et du Fils. Bon. Donc on contemple là vraiment l'Esprit Saint comme amour, dans la ligne augustinienne, personne amour, lien de l'aimé et de l'aimant. Hein? Il procède comme amour dans la communion trinitaire. Hein? Et puis on le voit dans le romance 2, là on passe de la procession à la mission, hein? Ce qu'on appelle la trinité économique, chez les pères, d'accord? Bon. Hein? Et l'amour que j'ai en toi, ce même amour, je le mettrai dans l'homme, dans la personne, dans l'épouse. Hein? C'est le vers 73 au romance 2. Hein? De même que le Père et le Fils et celui qui procède d'eux, l'un vit dans l'autre, ainsi l'épouse serait absorbée à l'intérieur de Dieu et elle vivrait la vie de Dieu. Le vers 162, au romance 4, pardon, romance 4. Voilà. Donc, si vous voulez, notre habitation en Dieu, notre union à Dieu, en Dieu, notre communion avec Dieu est la même. Enfin, une participation hein, à cette inhabitation mutuelle des personnes divines. Hein. Le Père dans le Fils, dans l'Esprit Saint. Hein. L'un vit dans l'autre. Et ainsi l'épouse serait à l'intérieur de Dieu, dentro de Dios, absorta, vida de Dios, viviría. Hein. Elle serait absorbée à l'intérieur de Dieu et elle vivrait la vie de Dieu. Donc avec cette inhabitation mutuelle des personnes. Hein. Voilà. Donc on a cette confession de foi en l'Esprit Saint dans le romance, hein, qui est amour, personne amour. Hein. Bien. Vous regarderez dans le romance 6, encore. C'est l'Esprit Saint qui parle par les prophètes, comme nous le confessons dans le credo. Il a parlé par les prophètes, il est Seigneur, il donne la vie, il a parlé par les prophètes. Alors c'est toute l'attente d'Israël, conduite par la prophétie. Voilà. Donc, vous voyez, l'esprit est bien présent dans ces romances. Hein. On le retrouve au romance 8, parce que c'est la Trinité tout entière qui revêt le verbe de chair. Évidemment, toutes les œuvres de la Trinité, nous allons le voir dans la strophe 2 de la vie flamme, toutes les œuvres de la Trinité ad extra, c'est un peu faux de dire ça, parce qu'on est toujours en Dieu et dans la Trinité, mais enfin, ad extra, hein, les œuvres de la Trinité sont les trois personnes inséparablement. Aucune personne de la Trinité n'agit inséparablement des autres. C'est clair, on va retrouver ça, c'est la loi d'airain de la théologie trinitaire, ça c'est clair. On va retrouver ça dans la strophe 2 de la vie flamme. Hein, ça c'est clair. Bien. Alors, ensuite, dans la source, le chant de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi, alors vous avez une mention de l'Esprit Saint de manière symbolique. Il faut vraiment le percevoir, c'est pas évident. Donc la source, ou chant de l'âme qui se réjouit de connaître Dieu par la foi, je la connais la source, bien que de nuit. Hein. Alors vous avez ce symbole de la source qui porte toute la vie trinitaire et la communion des personnes de la Trinité, contemplation du mystère du Dieu 1, et puis des trois personnes divines. Et vous avez à la strophe 7, donc il y a une source, puis c'est pas toujours bien traduit en français, il faut reconnaître, une source avec des courants. Et donc, il y a un premier courant, c'est le Fils, hein, la génération du Fils, et un autre, c'est le courant qui procède. Jean de la Croix parle du courant qui procède. Procéder, c'est la personne de l'Esprit. Hein, voilà. Dans la Trinité, l'Esprit procède de cette source. Je sais qu'il est aussi capable et tout-puissant, bien que ce soit de nuit, égalité de l'Esprit avec le Père et le Fils. Il procède, mais il est égal. Il est troisième dans la Trinité, mais il est égal. Dans la théologie trinitaire, dans la Trinité, l'ordre ne signifie pas subordination. On voit ça avec les pères de l'Église, hein, les pères du 4e siècle, du 3e et 4e siècle. Ordre ne veut pas dire subordination. Nous, dans notre langage humain, quand il y a un ordre, il y a une hiérarchie, ça veut dire qu'il y a un plus grand et un plus petit, hein, un supérieur et un inférieur. En Dieu, non. Il y a un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de subordination, on dit en théologie trinitaire. D'accord ? Donc, le courant qui procède de cette source, je sais qu'il est aussi capable et tout-puissant, bien que ce soit de nuit. Hein ? Voilà. Donc, on voit que Saint Jean de la Croix, il possède la théologie trinitaire parfaitement. Hein ? Il a assimilé tous les conciles, c'est sûr, depuis le début jusqu'au concile de Florence. Quelle année ? 1438. De Florence, et l'accord avec les Grecs, justement, à propos de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit tient son essence et son être à la fois du Père et du Fils, et il procède éternellement de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et par une seule spiration. Et parce que tout ce qui est du Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils, unique en l'engendrant, à l'exception de son être de Père, cette procession du Saint-Esprit à partir du Fils, il la tient éternellement de son Père, qui l'a engendré éternellement. Denzinger, 1300-1301. D'accord ? Ah bon, les étudiants de baccalauréat et de maîtrise, hein, c'est indispensable. D'accord ? Bien. Donc voilà. Alors le cantique, hein, le cantique spirituel B, la strophe 39, mais évidemment tout le cantique, comme dit Saint-Irénée, le verbe articule l'esprit, donc on a le Christ époux, mais il y a toujours l'esprit. Il y a d'abord plein de symboles de l'esprit. La mission de l'esprit est vraiment articulée sur celle du Fils. Elle se laisse entrevoir. Il y a d'abord plein de symboles bibliques de l'esprit. Il y a le souffle, l'air, à la strophe 13, le vent, le sifflement de l'air, strophe 17, les autans qui réveillent l'amour. Puis il y a aussi le symbole de l'eau, symbole de l'esprit dans l'évangile de Saint Jean. Hein? Strophe 12, avec la fontaine cristalline. Et puis il y a aussi à la strophe 17, il est mentionné carrément comme l'intendant de l'époux, c'est-à-dire celui qui prépare la demeure de l'époux. C'est l'esprit, aposentador. 17. Donc, vous voyez, cet esprit, il est bien là, hein, vous pourrez vérifier. Et surtout, la strophe 39 du cantique B ou 38 du cantique A. L'âme est allée explorer les cavernes de la pierre, c'est le mystère du Christ. Elle est dans une égalité d'amour, elle est transformée par le mariage, une alliance définitive et stable. Et là, strophe 38, A ou B 39, l'âme est identifiée au verbe qui spire l'amour. Ça, c'est la théologie de Saint-Augustin, reprise par Saint-Thomas, inspiration d'amour. Et l'âme participe à cette inspiration de l'Esprit-Saint, cette inspiration commune au Père et au Fils. Alors, Saint-Jean de la Croix cite toutes les affirmations de l'Évangile, de la lettre aux Galates, de la deuxième de Pierre. Hein? Voilà. Participons à cette procession de l'esprit, rien de moins que cela. Vous pourrez lire cette strophe. Hein? Et donc, il est question d'une flamme à la fin qui consume et qui ne donne pas de peine. Alors, nous sommes déjà dans les préparatifs de la vie flamme. Il va être question d'une flamme qui a blessé mais qui n'est plus blessante. Vous voyez, ça s'articule parfaitement avec le cantique. Et d'ailleurs, il y a le thème aussi, bon, outre le symbole de la flamme, il y a aussi le thème de notre filiation. En fait, cette participation, c'est notre filiation. Nous participons à la procession de l'esprit, c'est notre filiation que nous réalisons. Dans le Fils unique, bien sûr. Jésus sera toujours unique. notre filiation, c'est une participation, c'est clair. Attention, hein, attention. Hein. Nous participons, ça veut dire, dans la théologie scolastique, la meilleure, hein, saint Thomas, participer, ça veut dire réaliser partiellement ce que Dieu réalise pleinement. Nous réalisons partiellement. Nous participons aux opérations trinitaires. Et nous réalisons cette filiation. La filiation du Christ, du Fils de Dieu, est unique. Et nous, c'est en lui et par lui. Évidemment, c'est unique. Nous ne serons jamais le Verbe de Dieu. On aura beau dire et beau faire. Il peut y avoir tous les mariages spirituels possibles, mais nous ne serons jamais le Verbe de Dieu. C'est le Fils unique de Dieu. Fils unique. D'accord ? Voilà. Bon, je pense que maintenant, les choses sont bien situées. Hein. Vous avez, il me semble, un équilibre pour aborder la vie flamme. Je crois. Un équilibre. À la fois la vie de Saint Jean de la Croix, et le message ne peut pas se comprendre sans le lien avec la vie. Et ensuite, cet équilibre théologique. Je crois qu'il faut vraiment la voir, à la fois pour comprendre et pour présenter Jean de la Croix. Sinon, ça paraît... Voilà. D'accord ? S'il y a des questions, je veux bien demain au début du cours. Et on démarre la première strophe demain. Voilà. Une strophe chaque jour, sauf la 3, il faudra un jour et demi. La 4, elle est très courte, une demi-journée. Donc ça ira, on peut planifier sans problème, on finira le texte. Alors, ayez le texte, si possible. Ah ben oui, moi je ne fais pas de photocopie du texte, hein, parce qu'on va aller à droite, à gauche, chercher des paragraphes, tout ça. Mais toutes les traductions sont mauvaises, donc n'ayez aucun souci. Le mieux, c'est d'avoir le texte espagnol. Voilà.